Chapitre 56. Maître Ral nous guide, murmura de nouveau Callan. Maître Ral nous dispense son enseignement. Maître Ral nous protège. À sa lumière, nous nous épanouissons. Dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons. Nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent.
À force d'être agenouillée, le front plaqué contre le sol, elle avait terriblement mal au dos et aux épaules. Mais elle ne s'en plaignait pas, car répéter inlassablement les dévotions était une très bonne action.
« Maître Ral nous guide, Maître Ral nous dispense son enseignement, Maître Ral nous protège. À sa lumière, nous nous épanouissons, dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. »
Réciter les mêmes mots pendant des heures et des heures était une expérience plutôt plaisante. Les dévotions emplissaient son esprit, chassant l'angoisse provoquée par le vide. Grâce à ces mots, Callan se sentait un peu moins seul et un tout petit peu moins perdu.
Maître Ral nous guide, Maître Ral nous dispense son enseignement, Maître Ral nous protège. À sa lumière, nous nous épanouissons, dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent.
Certaines de ces phrases résonnaient très profondément en Callan. Les échos qu'elles éveillaient dans son âme se révélaient des plus positifs, comme si elle se souvenait d'un lointain paradis perdu. Les personnes qui l'accompagnaient étaient pressées. Pourtant, quand elles avaient vu que des soldats les surveillaient tout particulièrement, elles avaient préféré aller avec tout le monde dans une cour de méditation à ciel ouvert. Callan était stupéfié que tant de gens aient répondu à l'appel de la cloche. À présent, tous exprimaient avec ferveur leur amour pour le seigneur Ral. La cloche sonna soudain à deux reprises. Dès qu'ils eurent fini la dévotion en cours, tous les fidèles du seigneur Ral se turent, puis ils se relevèrent, certains s'étirant et bâillant, et reprirent leurs diverses conversations tout en retournant là où ils étaient avant l'appel de la cloche. Quand les personnes qui l'accompagnaient lui firent signe d'avancer, Callan obéit et s'engagea dans l'immense allée, laissant derrière elle la cour de dévotion. Le petit groupe passa devant une rangée de statues, négligea un carrefour et traversa l'allée. Lorsque ses trois compagnes s'arrêtèrent, Callan s'immobilisa aussi. Après un voyage déjà éprouvant, monter des centaines de marches, puis arpenter des couloirs interminables l'avait vidé de ses forces. Elle aurait adoré s'asseoir, mais il était inutile de demander. Les sœurs se fichaient qu'elle soit épuisée. Agacée d'avoir perdu du temps avec les dévotions, elle devait être d'une humeur épouvantable. Bref, ce n'était pas le moment de leur marcher sur les pieds. Quand elles étaient ainsi, Callan craignait toujours qu'elle la frappe. Elle décida donc de se faire toute petite. Après tout, elle avait pu se reposer un peu pendant les dévotions. Fringants dans leur bel uniforme, des soldats patrouillaient en permanence et rien ne leur échappait. Chaque fois que des gardes croisaient Callan et ses trois compagnes, ils les étudiaient longuement. Les sœurs de l'obscurité faisaient alors semblant d'admirer une statue ou une tapisserie. À une occasion, pour tromper des soldats plus méfiants que la moyenne, elles s'étaient serrées les unes contre les autres pour échanger des propos enthousiastes sur la statue d'une femme qui brandissait un épi de blé tout en s'appuyant à une lance.
« Vous devriez vous asseoir sur ce banc, »
dit sœur Oulicia quand les militaires furent passés.
« On dirait des chats qui se font renifler par une meute de chiens. »
Sœur Tovi et sœur Cécilia, toutes deux plus âgées qu'Oulicia, tournèrent la tête et virent le banc de marbre blanc. Relevant l'ourlet de leur robe, elles trottinèrent jusque-là et s'assirent. Avec son surpoids, la pauvre Tovi était au bord de l'épuisement. Après la séance de génuflexion dans la cour de dévotion, son front était rouge comme une tomate mûre. Toujours coquette, Cécilia profita de l'occasion pour lisser ses cheveux gris. Contente de pouvoir se reposer, Callan se dirigea vers le banc.
« Pas toi !»
cria Oulicia.
« Personne ne te remarquera. Reste debout près de mes sœurs, histoire que je puisse garder un œil sur toi. »
La sœur foudroya sa prisonnière du regard.
« Oui, sœur Oulicia, »
dit enfin Callan. La sœur de l'obscurité ne supportait pas qu'on omette de répondre lorsqu'elle s'adressait à quelqu'un. Callan avait payé cette leçon au prix fort. Pourtant, elle avait répondu avec un temps de retard et ça avait failli lui coûter cher. Même fatiguée, elle devait rester concentrée si elle ne voulait pas recevoir une gifle sur le champ et une pire punition un peu plus tard. Ulyssia ne détourna pas le regard. Plaquant la pointe de sa canne sur la gorge de Callan, elle s'en servit pour la forcer à relever le menton.
« La journée n'est pas terminée, et tu dois encore t'acquitter de ta part du travail, et n'espère pas me laisser tomber d'une façon ou d'une autre. »«
Oui, sœur Ulyssia. »«
Parfait. Nous sommes aussi fatigués que toi, sais-tu ?»
Callan faillit répondre que les sœurs, contrairement à elle, avaient voyagé à cheval. Leur prisonnière, en revanche, devait marcher et ne pas se laisser distancer par les équidés. Ulyssia détestait devoir rebrousser chemin pour aller chercher une stupide esclave. Callan regarda autour d'elle et ne cacha pas son émerveillement.
« Sœur Ulyssia, où sommes-nous, s'il vous plaît ?»
La sœur se tapota nerveusement la cuisse avec sa canne, puis elle jeta un bref coup d'œil autour d'elle.
« C'est la résidence natale du seigneur Hall !»
lâcha-t-elle. Ulyssia attendit un commentaire qui ne vint jamais, puis reprit agacée.
« Le seigneur Hall, tu sais, l'homme pour lequel nous venons de prier, Richard Hall, pour être précise, c'est lui qui règne sur Dara maintenant. »
Callan réfléchit. « Le seigneur Richard Hall. » Oui, ça aurait dû lui dire quelque chose, mais son cerveau refusait de lui obéir. On eût juré que tous ses souvenirs s'étaient évanouis, ou qu'elle n'en avait jamais eu, tout simplement.
« Le palais du peuple, dit Ulyssia, est un endroit magnifique. C'est là que vit le seigneur Hall. En as-tu jamais entendu parler, ma fille ?»«
Non, ma sœur, je ne crois pas. » »«
Eh bien, c'est plutôt normal, après tout. Tu n'es qu'une esclave, quelqu'un qui ne compte pas, une moins que rien. »
Callan voulut se défendre en rappelant qu'elle avait eu une existence hors du commun, mais ce n'était qu'un rêve et elle le savait désormais.
« Oui, sœur Ulyssia, »
trouva-t-elle la force de répondre. Dès qu'elle tentait de réfléchir à elle-même, un trou noir grandissait dans sa tête. Sa vie était si vide. Quelque chose lui soufflait qu'il n'aurait pas dû en être ainsi, mais qu'est-ce que ça changeait ?
Ulyssia tourna la tête lorsqu'elle vit que Callan suivait des yeux l'approche d'Armina, la quatrième sœur du groupe.
« Pourquoi soit tard ?»
demanda Ulyssia quand Armina l'eut rejointe.
« J'ai dû prendre part aux dévotions en l'honneur du seigneur Hall. »«
Nous aussi, et nous étions à l'heure, alors, qu'as-tu découvert ?»«
C'est bien l'endroit. La première intersection derrière moi, puis l'allée de droite jusqu'à notre destination. » Cela dit, nous devrons être prudentes.
Pourquoi ?
Demanda Ulyssia alors que les deux autres femmes approchaient pour écouter.
Il n'y a pas moyen d'aller là-bas sans se faire remarquer,
répondit Armina.
Pour nous, en tout cas, il semble clair que les étrangers n'y sont pas les bienvenus.
Comment peux-tu dire ça ?
Il y a des serpents sculptés sur les portes. Ça ne donne pas envie d'entrer.
Callan frissonna. Elle détestait les reptiles.
Ulyssia réfléchit un moment, puis se tourna vers sa prisonnière.
« Tu te souviens des ordres ?»«
Oui, sœur Ulyssia. »
Callan voulait en avoir fini au plus vite. Quand les sœurs seraient contentes, elle aurait peut-être quelques minutes de répit. En attendant, le soir tombait et il allait falloir agir. Le retard était pour l'essentiel imputable aux dévotions. En principe, la mission aurait dû être terminée.
Quand tout serait terminé, Callan espérait pouvoir dormir un peu.
Les sœurs ne lui laissaient jamais une véritable nuit de repos. Mais parfois, après avoir dressé le camp, elle pouvait profiter d'un court répit pour fermer un peu les yeux.
« Bien, ce retard ne change rien d'essentiel, »
dit Ulyssia.
« Nous allons simplement devoir rester un peu plus longtemps que prévu, voilà tout. »
L'air de rien, elle regarda autour d'elle afin de repérer les soldats.
« Cécilia, tu monteras la garde ici. » « Armina, retourne sur tes pas pour surveiller l'entrée de ce niveau. Pars tout de suite afin que nous n'ayons pas l'air d'être ensemble lorsque nous serons près des portes. »«
Je flânerai dans les couloirs comme une paysanne impressionnée qui s'ébobie de tout. »
Sans un mot de plus, elle s'éloigna d'un pas nonchalant.
Tovi,
dit Ulicia,
tu viens avec moi. Nous ferons semblant d'être deux amis qui bavardent en visitant le superbe palais du seigneur Ral, pendant ce temps qu'Alan accomplira sa mission.
La sœur de l'obscurité prit Kalan par le bras.
« Allez !»
cria-t-elle en flanquant un grand coup dans le dos de la prisonnière. Kalan tituba, réajusta son sac sur son épaule et avança. Les deux sœurs la suivirent dans la grande salle. À l'approche de l'intersection où il fallait prendre à droite, les trois femmes croisèrent deux soldats qui remarquèrent à peine Tovi. En revanche, ils répondirent chaleureusement au sourire d'Ulicia. Quand elle le voulait, cette femme pouvait être charmante, et elle était assez séduisante pour que les hommes s'intéressent à elle. En revanche, Kalan passa totalement inaperçu.
« Arrête-toi ici !»
lança Ulicia. Kalan obéit et étudia la lourde porte au bout de l'allée. Les deux serpents qui décoraient les battants semblèrent soutenir son regard. Leurs corps enroulés autour de branches sculptées en haut de la porte, les reptiles avaient la tête en bas afin que celle-ci soit au niveau des yeux d'un être humain. Leurs crochets jaillissant de leur gueule béante, ces étranges gardiens semblaient sur le point d'attaquer. Kalan se demanda pourquoi des créatures si laides figuraient sur une porte. Dans ce palais, tout était très beau, à l'exception de cette entrée.
« Tu te souviens de tes ordres ?»
demanda Ulicia.
« Oui, ma sœur, »
répondit Kalan.
« Si tu as des questions, c'est le moment de les poser. » « Non, je me rappelle tout. »
C'était le plus bizarre dans tout ça. Elle pouvait mémoriser parfaitement certaines choses, mais d'autres semblaient perdues comme dans un brouillard.
« Et ne traîne pas !»
lança Tovi.
« Je ne traînerai pas, ma sœur, c'est juré. »
« Nous avons besoin de ce que nous t'envoyons chercher, et tu ne dois pas faire de bêtises, c'est bien compris ?»«
Oui, sœur Tovi. »
« Alors n'en fais pas, sinon tu auras affaire à moi et ce ne sera pas agréable, crois-moi. »«
Je sais, sœur Tovi. »
Kalan ne mentait pas. Elle savait. Tovi n'était pas la pire du lot, mais quand on la provoquait, elle pouvait se montrer incroyablement cruelle. Et une fois lancée, elle adorait voir ses proies souffrir et se débattre en vain.
« Vas-y !»
ordonna Ulicia.
« Et surtout ne parle à personne. » Si quelqu'un s'adresse à toi, ne réponds pas et on te laissera tranquille.
Un instant pétrifié par la lueur mauvaise qui dansait dans les yeux de la sœur, Kalan finit par hocher la tête, puis elle partit à grandes enjambées. Sa fatigue oubliée, elle savait ce qu'elle avait à faire et ne tenait pas à découvrir ce qui l'attendait si elle échouait. Arrivée devant la double porte, elle saisit une des poignées en bronze en forme de crâne ricanant. Évitant soigneusement de regarder les serpents, elle banda ses muscles pour ouvrir le lourd battant. Elle entra, s'immobilisa le temps que ses yeux s'habituent à la pénombre, puis avança prudemment sur un épais tapis bleu en or qui étouffa l'écho de ses pas. La pièce lambrissée d'acajou, le même bois que la porte, se révéla agréablement silencieuse, contrairement au reste du palais. Dès qu'elle eut refermé la porte, Kalan s'avisa qu'elle était totalement coupée des quatre sœurs. C'était la première fois depuis très longtemps. D'habitude, il y en avait toujours une pour la surveiller. Ça semblait d'ailleurs étrange puisqu'elle n'avait jamais tenté de s'échapper. Il lui était souvent arrivé d'y penser, bien sûr, mais elle n'était jamais allée jusqu'à essayer. Le simple fait de l'envisager lui valait de terribles souffrances, comme si son cerveau allait exploser dans son crâne, ses yeux menaçant de jaillir hors de leurs orbites. Lorsqu'elle rêvait de fausser compagnie à ses geôlières, la douleur frappait trop vite pour qu'elle puisse l'esquiver en pensant à autre chose. Après avoir été punie ainsi, elle avait l'estomac retourné et devait rester couchée pendant plusieurs heures. Les sœurs savaient systématiquement que ça se produisait puisqu'elles la découvraient rouler en boule sur le sol. Dès qu'elle se sentait un peu mieux, une des quatre la battait pour lui apprendre l'obéissance. Ulicia était la pire, car elle utilisait la canne très dure dont elle ne se séparait jamais. Les marques guérissaient lentement et certaines meurtrissures se rouvraient sans cesse. Aujourd'hui, les quatre femmes avaient ordonné à Kalan de s'éloigner d'elles. Si elle s'en tenait aux ordres, avait-elle dit, la prisonnière ne souffrirait pas. Être loin de ces femmes était si agréable que Kalan en aurait bien crié de joie. Cela dit, dans la pièce,
quatre colosses, des gardes, étaient là pour remplacer les maudites sœurs. Callan s'immobilisa, ne sachant trop que faire. Des vipères dehors, d'autres serpents sur la porte, et encore des reptiles de l'autre côté. De quoi se demander si elle pouvait rêver à quelques secondes de paix. Comment allait-elle passer le poste de garde? Ces hommes la terrorisaient car ils ne devaient sûrement pas traiter les intrus avec égard. Pour l'instant, il la regardait d'une étrange façon. Rassemblant son courage, Callan ramena derrière son oreille une mèche de ses longs cheveux et se dirigea vers le fond de la salle où se trouvait un escalier. Deux gardes vinrent lui barrer le chemin.
« Où crois-tu aller, femme ?»
demanda l'un d'eux. Gardant la tête baissée, Callan continua à avancer. Afin de pouvoir se glisser entre les deux hommes, elle se tourna légèrement sur le côté. Alors qu'elle les dépassait, le deuxième homme lança au premier.
« Qu'as-tu dit exactement ?»
L'autre type dévisagea son camarade, l'air surpris.
« Pardon, je n'ai rien dit du tout. »
Alors que Callan continuait son chemin, les deux autres soldats approchèrent de leurs camarades.
« De quoi parlez-vous, les gars ?»
demanda l'un d'eux.
« De rien !»
répondit le premier homme avec un vague geste de la main.
« Ce n'est rien d'important. »
Callan gravit les marches aussi vite que ses jambes fatiguées le lui permettaient. Elle marqua une courte pause sur un grand palier, puis reprit son chemin et négocia une deuxième volée de marches. Le soldat qui montait la garde en haut de l'escalier se retourna dès qu'il entendit le bruit de ses pas. Lorsqu'elle passa devant lui, il la regarda s'engager dans le couloir, mais ne dit rien et reprit tranquillement sa ronde. Le couloir grouillait de soldats. Le seigneur Hall en avait beaucoup et c'étaient tous des colosses à l'air menaçant. Callan frissonna à l'idée de devoir échapper à tant d'hommes afin d'accomplir sa mission. S'il la ralentissait, Olicia ne se montrerait sûrement pas compréhensive, et comme elle n'était pas du genre à pardonner. Plusieurs hommes aperçurent l'intruse et se dirigèrent vers elle. Mais lorsqu'ils arrivaient à sa hauteur, leurs regards se voilaient, et ils ne s'intéressaient plus du tout à elle. Certains gardes se tournèrent vers un officier, comme s'ils voulaient donner l'alarme, mais dès qu'on leur posait une question, ils répondaient que ce n'était rien et qu'il ne fallait pas faire attention. D'autres encore levaient un bras, comme pour désigner quelque chose, mais ils le laissaient retomber aussitôt, l'air désorienté. Tandis que les soldats la repéraient et l'oubliaient aussitôt, Callan se dirigea lentement mais sûrement vers sa destination. Tout se passait bien. Elle trouvait cependant inquiétante la présence de tant d'arbalétriers. Ces hommes-là portaient des gants noirs et leurs armes étaient prêtes à tirer d'étranges carreaux à la pointe rouge. La magie qui torturait Callan, pour lui interdire de s'enfuir, l'enveloppait d'une toile, le nom qu'utilisait Olicia, qui empêchait les gens de la voir. Il était curieux que les sœurs se donnent tant de mal pour elle, mais leur motivation profonde lui échappait et elle ne parvenait pas à réfléchir assez clairement pour les reconstituer. Avoir en permanence le cerveau embrumé était une expérience terrifiante. Quand elle se posait une question, la réponse commençait à se former dans sa tête, mais elle s'évanouissait comme si un vent mauvais l'avait chassée au loin. Même si une toile la protégeait, Callan avait conscience de risquer sa vie. Si un arbalétrier tirait assez vite, à savoir avant de l'avoir oubliée, elle n'aurait aucune chance de s'en sortir. Cela posé, mourir ne la gênait pas vraiment puisque ça lui permettrait d'échapper à ses geôlières. Encore que, selon sœur Olicia, les femmes comme elle étaient très liées aux gardiens du royaume des morts. Si Callan tentait de s'enfuir en traversant le voile, en route pour un séjour éternel dans le monde des esprits, elle ne serait en sécurité nulle part. À cette occasion, Olicia avait mentionné pour la première fois qu'elle était une sœur de l'obscurité. Une façon de souligner que ce n'étaient pas des menaces en l'air. Callan n'aurait pas eu besoin de cette confirmation. Depuis toujours, elle pensait que les sœurs pourraient la traquer jusque dans le trou le plus perdu du monde, y compris si ce trou était une tombe comme celle que les sœurs avaient ouverte une nuit, pour quelque mystérieuse raison. N'ayant aucun motif de mettre en question les propos d'Olicia, Callan avait cessé de voir la mort comme un doux refuge où rien de mal ne pourrait plus lui arriver. Une ultime interrogation la hantait. Avait-elle toujours été une marionnette dont les sœurs tiraient les ficelles? Cela semblait peu probable, pourtant elle ne se souvenait de rien d'autre. Tout en se faufilant au milieu des soldats, Callan négociait une série d'intersections que sœur Ulysia avait dessinées dans la poussière près d'un nombre incalculable de feux de camp. Utilisant la pointe de sa canne, la sœur de l'obscurité avait fourni à sa prisonnière assez d'indications pour qu'elle ne se perde pas. Comme depuis le début, personne ne tentait de l'intercepter. En un sens, être si transparente avait quelque chose de déprimant. Mais ça ne ratait jamais. Les soldats ne la remarquaient pas ou l'oubliaient immédiatement quand par hasard ils la voyaient. Elle n'était qu'une esclave, quelqu'un dont la vie n'avait pas de valeur. Elle appartenait à des sœurs, et cela la rendait invisible, insignifiante et sans importance. Un néant ambulant. De temps en temps, comme lors de l'ascension du grand escalier qui menait au palais, Callan croisait ou dépassait un couple qui marchait main dans la main. Être aimé et aimé devait réchauffer le cœur. Mais elle n'aurait jamais cette chance, c'était certain. Elle écrasa la grosse larme qui coulait sur sa joue. Les esclaves n'avaient pas de vie privée parce qu'ils étaient en ce monde pour servir leur maître et rien d'autre. Sœur Ulysia avait été très claire là-dessus. Un jour, avec le regard malveillant qu'elle arborait parfois, elle avait menacé Callan d'une saillie afin de voir si elle était une bonne reproductrice. Comment en était-elle arrivée là? D'où venait-elle? Il ne semblait pas possible que le passé se soit effacé de toutes les mémoires. Il devait bien rester quelqu'un qui se souvenait d'elle. Avec la brume qui envahissait son cerveau, elle ne parvenait pas à se pencher vraiment sur la question. Le monde des concepts lui était fermé et celui de la réflexion la plus basique semblait hors de sa portée. Pourquoi était-elle la seule personne au monde incapable de penser? Même cette question-là se perdait dans le brouillard de son hébétude. Quand elle fut en vue d'une grande porte à double battant revêtue d'or, Callan s'arrêta et constata que la description d'Ulysia était d'une précision diabolique. En fermant les yeux, Callan aurait pu jurer qu'elle était déjà venue ici. C'était impossible, bien sûr, mais dès qu'elle eut regardé à droite et à gauche, elle mobilisa toutes ses forces pour ouvrir un des deux battants. Après un dernier coup d'œil dans le couloir, elle entra et tira la porte derrière elle. Il faisait bien plus clair à l'intérieur que dans le couloir. Même si la journée était plutôt couverte, le toit vitré laissait filtrer assez de lumière pour que le plus étonnant des jardins intérieurs saute aux yeux des visiteurs. Ulysia avait rapidement décrit les lieux à Callan, mais aucun mot n'aurait pu la préparer à ce qu'elle découvrait. Richard Rahl était un homme heureux, vraiment. Avoir un tel jardin à sa disposition n'était pas donné à tout le monde. Un moment, Callan imagina qu'il venait s'y promener pendant qu'elle était là, la croisait et l'oubliait instantanément. Se souvenant qu'elle était en mission, elle chassa ses fantaisies de son esprit, se concentra et suivit un des chemins qui serpentait à travers les parterres de fleurs. Ici, le sol était jonché de pétales rouges ou jaunes. Callan se demanda si Richard Rahl venait cueillir des fleurs pour la dame de ses pensées. Elle aimait le nom de ce seigneur. Ses sonorités la rassuraient. Richard Rahl. Richard. Était-il agréable à regarder? Son allure correspondait-elle à la grâce de son patronyme? En remontant le sentier, Callan admira les petits arbres qui le bordaient des deux côtés. Elle les aimait beaucoup et ils éveillaient en elle le souvenir de... Tout le problème était là. Elle ignorait de quel souvenir il s'agissait. C'était intolérable. Ne pas garder en mémoire des événements importants la rendait folle. De toute façon, important ou pas, elle détestait oublier des éléments de sa vie, parce que ça revenait à perdre contact avec une partie de ce qu'elle était. Callan longea un mur couvert de lierre, puis se dirigea vers le centre du jardin où s'étendait une pelouse. Bientôt, au milieu de cet espace libre, elle reconnut l'autel de pierre qu'elle cherchait. Les objets qu'elle venait prendre reposaient dessus. Quand elle les aperçut, Callan frissonna de terreur. Les trois boîtes étaient plus noires que la nuit, comme si leur surface mate absorbait la lumière au lieu de la refléter. Le cœur battant la chamade, Callan approcha de l'autel. Être si près d'objets pareillement maléfiques la terrifiait, mais elle devrait quand même aller jusqu'au bout. Elle enleva son sac de son épaule et le posa près des boîtes obscures qu'on l'avait chargé de récupérer. Son sac de couchage, accroché au paquetage, empêchait le tout de tenir debout seul, sauf si elle l'inclinait légèrement sur un côté. Posant la main sur son sac de couchage, elle se réconforta en sentant les contours du trésor qu'il contenait. Sa plus précieuse possession est pratiquement la seule. Mais elle ne devait pas perdre de vue sa mission. Cela dit, elle allait avoir un problème. Les boîtes étaient plus grandes que Sœur Ulicia le pensait, impossible de les ranger toutes dans son sac. Pourtant, c'était ce qu'on lui avait ordonné. Les désirs des sœurs entraient en conflit avec une incontournable réalité physique et il n'y avait aucun moyen de résoudre cette contradiction. Callan se souvint de punitions passées et frémit. Le front humide de sueur, elle repensa à certaines séances de torture. Pourquoi fallait-il que ces images viennent la tourmenter maintenant? Bien, il fallait qu'elle essaie. Sinon, les sœurs se déchaîneraient contre elle. Mais commettre un vol dans le jardin de Richard Rall lui déplaisait profondément. Les boîtes noires appartenaient au maître de ces lieux, et pour qu'il ait posté tant de gardes autour, elles devaient avoir une grande valeur à ses yeux. Callan n'était pas une voleuse. Mais l'honnêteté était-elle une raison suffisante pour souffrir 1000 morts? Le trésor du seigneur Rall avait-il plus de valeur que son sang? Aurait-il aimé qu'elle ne remplisse pas sa mission et le paie au prix fort? Selon elle, il n'était pas ce genre d'homme. Elle ouvrit son sac, essaya de tasser son contenu, mais gagna ridiculement peu de place. Inquiète à l'idée de mettre trop de temps à agir, elle sortit un vêtement afin d'envelopper dedans la première boîte. Une longue robe blanche aux reflets satinés. Callan admira le magnifique tissu. Elle n'avait jamais vu un pareil vêtement. Mais que faisait dans son paquetage une telle merveille? C'était la robe d'une reine, pas d'une esclave. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais là encore, la réponse lui échappait. Elle prit une des boîtes, enroula autour le bas de la robe et remit le tout dans le sac. Appuyant un peu, elle parvint à refermer de justesse le rabat du sac. Une seule boîte récupérée, et elle n'avait déjà plus de place. Comment faire maintenant? Sœur Ulicia avait été catégorique. Si Callan ne cachait pas les boîtes dans son sac à dos, les gardes les verraient. La voleuse ne les intéresserait pas, mais ils reconnaîtraient les objets magiques et donneraient l'alarme. Callan avait ordre de cacher son butin, mais il n'y avait aucun moyen de le faire. Quelques nuits auparavant, autour d'un feu de camp, Ulicia avait décrit par le menu ce que subirait la prisonnière si elle échouait. Callan sentit qu'elle tremblait de tous ses membres à ce souvenir, et le phénomène s'aggrava lorsqu'elle pensa à Tovi. Que devait-elle faire pour éviter le pire ?